bise pleurait, avec lui sanglotait.
La bise pleurait, avec lui sanglotait.
Ce que disait l'oiseau, l'oiseau du champ fauve.
L'oiseau, l'oiseau.
Ce que disait l'oiseau, l'oiseau du champ fauve.
L'oiseau, l'oiseau.
Dans le champ fauve, c'était.
Bonsoir. Dans le cadre de notre série d'émissions consacrée à Louise Michel, nous vous proposons ce soir la cinquième émission qui nous fera vivre l'emprisonnement de Louise Michel dans l'attente de sa déportation, puis le voyage en Nouvelle-Calédonie et le début de son séjour de bagnard de déporté avec l'évocation de ses activités de défense de la culture kanak et d'éducation. Bonne écoute.
Il n'avait pas 30 ans, le cœur plein d'espérance, plein de patriotisme et d'abnégation. Quand les bourreaux français tranchèrent l'existence de ce grand citoyen, de ce fier champion. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort, frappé par la loi. Oh, Rossel, mon enfant, ta mort sera vengée. Oh, martyr, dors en paix. Inouïe, ce fier, vaillant soldat qui n'avait dans son âme que trop d'amour, hélas, pour son pauvre pays. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort, frappé par la loi. Le droit de liberté qu'il défendait si haut. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort, frappé par la loi. Son âme en t'adorer. France, son sang. Les Français en émoi, la France déchirée, pleure avec nous ce fils, pleure cet innocent. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort frappé par la loi. Mon enfant, ta mort sera vengée. Oh, martyr, dors en paix, la France pense à toi. Adieu, mon fils, adieu, ton immense fortune, laisse dans notre cœur. Mortel regret, mais si le peuple un jour refaisait la commune, c'est au nom de Rossel qu'il se soulèverait. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort frappé par la loi. Ta mort sera vengée, oh martyr, dors en paix, la France pense à toi.
Maison centrale d'Aubrive, Haute-Marne, 25 décembre 1871. Monsieur l'aumônier, nous sommes arrivés hier à Aubrive. Je ne souffre pas. Je suis ici tout à fait dans la mort, et cela vaut mieux pour moi. Je ne pouvais éprouver qu'une seule douleur. Maintenant, je me sens de l'autre côté de la vie. Vous savez à qui j'aurais voulu dire adieu? Vous savez tout ce que je voulais faire. Je ne vous recommande donc rien. Mais écrivez-moi si vous avez vu maman. Je n'ai même pas eu le temps de vous laisser quelques papiers que j'avais préparés pour maman. Mais enfin, dites-lui bien qu'elle est encore plus heureuse que d'autres mères. Dites-lui tout ce que vous pourrez. Et puis, elle sait si bien se résigner. Recevez mes respects. Louise Michel. Maison centrale d'Aubrive. Haute-Marne, 15 janvier 1872. Monsieur l'aumônier, est-ce trop vous demander un mot de réponse? Votre lettre sera aussi une consolation pour moi qui n'oublie pas ce que vous avez fait pour d'autres. Si j'ai du courage, si je regarde la vie avec le même calme qu'ils ont regardé la mort, c'est que je veux leur obéir. Pardonnez-moi. Mais quand la réalité d'une pareille chose se fait bien sentir, le cœur se brise, surtout quand on ne parle jamais de ce qu'on peut souffrir. La prison, les voyages lointains, tout cela n'est rien pour moi, au contraire. Ces petites misères me serviraient de distraction à la douleur de ce qui n'est plus, si je pouvais être distraite. Recevez mes respects et remerciements. Louise Michel. Mille choses à nos bonnes sœurs. Elles savent combien je les aime. Maison centrale d'Aubrive, Haute-Marne, 21 janvier 1872. Monsieur l'aumônier. Oh, comme j'aurais tout pardonné sans le 28 novembre. Pardonnez-moi si je vous parle si longtemps de moi. Merci de comprendre la peine que le temps ne peut qu'augmenter et que la liberté rendrait horrible. Au moins ici, on peut croire quelquefois que la vie est un rêve. Quand vous le pourrez, écrivez-moi. C'est la seule chose que je désire. Recevez tous les respects et remerciements. Louise Michel. Maison centrale d'Aubrive, Haute-Marne. 13 février 1872. Monsieur l'aumônier. Oh, j'avais bien besoin de vous parler aujourd'hui. Il y a des instants où le pauvre cœur humain se brise sous le poids de douleur qui emplirait une éternité. Comme vous savez tout, vous me comprenez? Ne se revoit-on jamais? Cette journée m'a tout rappelé, plus vivement encore. Il m'a semblé revoir tout ce que j'ai laissé là-bas de mon âme. Je ne vais pas vous en dire davantage. Je n'oublie pas que le courage m'a été recommandé. Du reste, je ne voudrais pas du bonheur après ce qu'il a souffert. Mais il arrive un instant où on n'a plus qu'une pensée, d'autant plus poignante qu'elle est impossible. Revoir ceux qui ne sont plus. Recevez mes respects. Louise Michel. Centrale d'Aubrive, Haute-Marne, 26 février 1872. Monsieur l'aumônier, se peut-il qu'il revienne un été et de beaux jours après ce qui s'est passé? Jamais je n'ai éprouvé pareille douleur. Mais jamais non plus je n'ai eu semblable courage. Ainsi, avec cette inconscience des enfants et des femmes, elles ont discuté devant moi jusqu'au plus petit détail d'une exécution militaire, m'adressant même des questions. J'ai tout supporté, sans faiblir. Il l'a bien éprouvé. Seulement, j'ai senti la vérité de cette expression, retourner le poignard dans le cœur. Il y a plus de 8 jours et je le sens encore. Ne croyez pas qu'elle n'ait malgré cela une vraie affection pour moi. Mais la légèreté des femmes est grande, de même que leur faiblesse. Ne les oubliez donc pas. Et écrivez-moi. Recevez toute ma reconnaissance. Louise Michel. Au président de la République. Aubrive, 28 avril 1872, 7h du matin. Monsieur, les exécutions continuent. Eh bien, tant mieux. Par les corps des martyrs, l'abîme se comblera. Et le peuple bien-aimé passera vers l'avenir. Frappez, frappez, messieurs. Quelques-uns d'entre nous auraient fait grâce, peut-être, au jour de la victoire. Et maintenant, il n'y en aura plus. Et pour un, il nous en faudra 1000. Vous descendez la montagne. Et l'abîme est au bas. Louise Michel.
On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme un faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers des flots d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier « Vive la commune !» Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Maison centrale d'Aubrive, 15 juin 1872. Monsieur l'abbé, j'ai horreur du jour de l'été, de tout ce qui est vie. Quelle belle chose que la justice humaine. J'avais donc relevé sous les balles tant de blessés pour que celui-là mourût, tué comme un chien enragé. Pardonnez-moi de vous redire cela encore, qui n'est qu'une faible partie de ce que je puis écrire, ne sachant où passent les lettres en sortant d'ici. Recevez tous mes respects, toute ma reconnaissance. Louise Michel.
Le 13 juillet 1872. Ma chère fille, si j'ai retardé un peu à t'écrire, c'est parce qu'il n'y avait pas bien longtemps que je t'avais vue. Je te dirais que je me suis trouvée fatiguée, car le voyage est long, et surtout à mon âge. J'ai éprouvé bien du plaisir de te voir. Je n'ai plus grand force maintenant. Le chagrin que j'ai eu m'a brisé. J'éprouve beaucoup de peine en pensant que nous devrions être heureux en vivant ensemble, toi en faisant ta classe, tandis que nous sommes séparés l'une de l'autre. Je t'envoie une branche de l'arbre qui est sur ton grand-père et une fleur de ta grand-mère. Je t'embrasse de tout cœur, ta mère.
Dimanche 21 juillet 1872. Louise Michel, ma cousine bien-aimée, je vivrai, je vous le promets. Ma bien-aimée, je ne sais que vous aimer, voilà tout. Ce que je ressens est trop vif et trop brûlant pour que je puisse l'exprimer de quelque manière que ce soit. Quand un ange comme vous paraît sur la terre, il ne devrait jamais la quitter. Vous me traitez en enfant gâté. Vous me faites un lit de rose où s'endort ma douleur après s'être enivrée au parfum de vos poésies. À vous toutes mes tendresses, je vous embrasse mille fois. Marie Laurent. 9 septembre 1872. Lundi, 5h du matin. Ma cousine bien-aimée. Ayant passé la journée d'hier en compagnie d'un de vos manuscrits, j'ai l'âme pleine de parfums et mon imagination est encore sous le charme de l'éblouissement. Je ne pouvais parvenir à m'endormir tellement je pensais à vous. Et c'est pourquoi, ce matin, je suis si matinale. Votre pensée ne me quitte pas un seul instant. Merci de ces fleurs de la tombe, peintes dans votre tombeau vivant, la prison. Je vous aime, ma sœur chérie, plus que le souvenir lui-même qui n'a plus droit qu'à notre vénération. Au revoir. Je vous embrasse de tout mon cœur. À vous toutes mes tendresses, tous mes souvenirs, ma pensée tout entière. Marie Laurent.
28 janvier 1873, 7h du matin, à la commission des grâces. Quelle sombre morgue vous faites de la France. Quel sinistre spectacle que votre commission d'assassins, embusquée derrière le nom de grâce. Tout ce sang est sur vous, égorgeurs masqués qui mettez en avant les conseils de guerre pour les couvrir de vos crimes. Misérable! Vous avez assassiné celui qui n'avait eu d'autre sort que d'être trop généreux avec les vôtres au 18 mars. Souvenez-vous bien, messieurs. Si je vis, je serai le spectre attaché à vos pas. Si vous me tuez, ce sera le bonheur. Et ma mort vous jettera encore du sang à la face. Souvenez-vous bien. Car je hais sans borne, comme j'aime sans borne.
Tout au fond du grand cimetière, défunt par les vers dépouillés, sous les herbes, vertes litières, dorment les anciens fusillés. Cachant les trous de la mitraille, couronnes et drapeaux serrés ornent la sinistre muraille, dernier abri des fédérés. tombe sans croix et sans chapelle, sans lys d'or, sans vitraux d'azur. Quand le peuple en parle, il l'appelle le mur. C'est là que, traquant leurs victimes, lignards, cavaliers, artilleurs, prirent ces combattants sublimes dans le terrier des fusilleurs. Là, qu'au son du clairon tragique, sonnant la lalie dans le bois, malgré sa défense héroïque, vint tomber la bête aux abois. Quand Paris ferme ses paupières, chaque nuit, dans l'enclos obscur, des râles s'échappent des pierres, du mur. Assassins, l'avenir vous navre. La révolte va reverdir sur ce sol. De chaque cadavre jaillit l'herbe du souvenir. Fleuron railleur de sa couronne, Gavroche, futur fusillé, y trace le mot de Cambronne que plus tard il viendra crier. Bourgeois, quand le blé des revanches au cimetière sera mûr, on fauchera vos faces blanches au mur.
Ma chère fille, nous devrions aujourd'hui réunis ensemble vivre dans le bonheur, et au lieu de cela, nous sommes séparés l'une de l'autre. Nous sommes malheureuses toutes deux. Si tu avais agi selon mes conseils, non pas contre ma volonté, toutes ces choses n'existeraient pas. Tu m'as dit que j'avais mis ces femmes à la porte. Mais si c'était aujourd'hui que cela arrive, je m'empresserais bien vite de les mettre dehors de chez nous. Et c'est justice que je les envoyais faire leur ménage, ce qui aurait bien mieux valu que de s'occuper de choses qui ne les regardent nullement. Et n'avais-je pas raison lorsque je te disais que ton peuple était beau? J'espère que tu réfléchiras. Je t'embrasse de tout mon cœur, ta mère qui t'aime.
Auberive, 28 avril 1873. Au chef de l'État. Monsieur, depuis longtemps, je vous répète, vos agents sont maladroits autant qu'ils sont infâmes. Je vous le répète encore, vous êtes trop mort pour que les nôtres vous attaquent. Il est temps que vos larves vous dévorent. Elles pullulent assez pour que cela marche vite. Nous avons peu à attendre avant la revanche. Louise Michel.
Clément, le 8 juin 1873. Ma chère fille, tu me demandes toujours ce qui me ferait plaisir. Une seule chose me causera un grand plaisir, c'est si tu étais un peu plus docile. Autrefois, étant petite, tu allais sans cesse à l'église. Pourquoi aujourd'hui ne vas-tu pas à la messe? Pourquoi n'es-tu pas aussi docile à aller à la messe, que tu en as le loisir et que cela me causerait tant de plaisir? Je t'embrasse de tout mon cœur, ta mère. Tu diras bien des choses pour moi à tes compagnes qui te rangent tes affaires puisque tu n'as pas d'ordre.
Marie-Laurent à Louise Michel. Si je n'étais sûre de vous revoir, ma sœur chérie, je me laisserais mourir. Ma cousine bien-aimée, nos lettres se sont croisées. Cela fait que je n'ai pu répondre directement à aucune. Dans celle où vous avez mis un œillet, vous me dites que vous croyez votre cœur plus froid que ceux qui sont morts depuis bientôt 2 ans. Je me refuse à croire cela. C'est moi qui deviens de glace. Je suis exclusive dans mes affections. Il n'y a jamais qu'une seule personne à la fois que j'aime sans borne. Et vous savez, ma chérie, que c'est vous maintenant qui possédez tout mon cœur. Je vous embrasse de toute mon âme. Vous possédez tout mon cœur. Marie. Vendredi 8 août 1873. Ma cousine bien-aimée. J'apprends votre départ d'Aubrive et votre transfèrement à La Rochelle. Comme je vous aime pour vous, je me réjouis de votre départ que vous nous faites envisager sous son côté le plus séduisant. Vous entrevoyez déjà, dans votre vaste imagination, tout le bien que vous pourrez rapporter pour le profit de tous. Eh bien, cher ami, bonne chance. Au revoir. Au revoir encore, ma cousine bien-aimée. Je vous embrasse comme je vous aime. Marie Laurent.
Le mardi 24 août, entre 6 et 7 heures du matin, nous sommes partis d'Aubrive, après 20 mois d'enfermement, en traversant l'Indre. Les ouvriers sortirent de leur atelier au nombre de 5 ou 6 et ôtèrent leurs casquettes. C'étaient des travailleurs du fer, des couteliers. Leurs bras nus jusqu'au coude étaient noirs. L'un d'eux, brandissant son marteau, jeta un cri dont le roulement de la voiture couvrit la moitié. C'était « Vive la commune !» Quelque chose comme une promesse de rester digne de ce salut me traversa le cœur.
Je n'avais jamais voyagé que de Chaumont à Paris. La mer fut pour moi le plus beau des spectacles. On le voit bien en songe tel qu'il est, cet océan. Mais quand la réalité arrive, cette fois-là, on reste charmé, magnétisé par l'immensité. Nous étions dans les batteries basses de la Virginie. Une vieille frégate de guerre à voile. Dans la cage en face de la nôtre était Henri Rochefort. Bien qu'il n'ait pas participé activement à la commune, la haine que lui portait Thiers lui valait la déportation.
Dans la cage des femmes, il y avait aussi Nathalie Lemel. Elle avait dirigé l'Union des femmes pour la défense de Paris. C'est à son contact pendant le voyage pour le bagne que je devins anarchiste.
Il était expressément défendu de se parler de cage à cage. Mais on le faisait tout de même. Madame Lemel et Rochefort commencèrent à être malades dès le premier instant et finirent au dernier. Pour moi, j'échappais au bal de mer comme j'avais échappé au bal. Et pendant les 4 mois que dura la traversée, je me reprochais vraiment de trouver le voyage si beau.
Je tombe, le flot roule, l'air est glacé, le ciel est noir. Oh, oh, le vaisseau craque sous la houle et le matin se mêle au soir.
Pourquoi ces brises monotones? Ouvrez vos ailes, ouragan. Nous nous en allons au cyclone. Navire en avant, en avant.
Montra tralala, montra véritra malère. Montra véritra tralala, montra véritra malère.
Montra véritra tralala, montra véritra.
Enfin, la Nouvelle-Calédonie! Nous fûmes conduites au bagne de la presqu'île Ducos. Nathalie Lomel et moi, nous partageâmes la même case. Ces insinuations sur Madame Lomel et moi sont ignobles. Si j'avais à ma disposition une ville entière parlant comme je l'entends, je la pétrolerais mille fois.
Et commencer à donner des leçons. La liane fuchsia couvre le sommet des arbres d'une neige de pendants d'oreilles rouges. Point. La pomme de terre arborescente est un arbuste ayant de petites tubercules à sa racine. Le niaouli est l'arbre sacré. Point final.
Sous les niaoulis, Louise apprenait à lire aux petits enfants de la Kanaki. Sous les niaoulis, Louise, à quoi rêvait-elle? Loin des barricades et loin des fusils, si loin du pays.
Soufflez dans vos conques, tapez le bambou, courez le bruit de la mitraille.
Liberté chérie, liberté debout, honte aux assassins de Versailles. Liberté chérie, liberté debout, honte aux assassins de Versailles.
Sous les niaoulis, tous les
hommes sont égaux en lettres jolies sur le grand tableau. Louise avait été. Pour tous mes amis, là-bas, qu'on tue, qu'on enchaîne. Enfants, écrivez, l'esclavage est mort, il faut qu'on l'oublie. Souffle dans vos conques, tapez le bambou. Tout ça, c'est des mots, des bêtises. Et sur les rochers, au fond de l'Ifou, s'écrase le temps des cerises. Et sur les rochers, au fond de l'Ifou, s'écrase le temps des cerises.
Soufflez dans vos conques, tapez le bambou. Enfant, réveillez la rengaine.
Liberté chérie, liberté debout. Louise, il faudrait qu'on s'en souvienne. Liberté chérie, liberté debout. Louise, il faudrait qu'on s'en souvienne. Sous les niaoulis, sous les niaoulis, sous les niaoulis.
On ne pouvait avoir de réponse à une lettre que de 6 à 8 mois, le temps de l'aller et du retour. Oh, mes chères lettres, avec quelle joie je les recevais. Ma mère, je m'assure qu'elle est toujours forte. Marie, Marie Ferré, ma tendre amie. Et monsieur de Fleurville, le beau-père de Verlaine, qui me gronde comme au temps de Montmartre. Et tous mes amis, Clémenceau, Hugo, Vallès, Rochefort.
Et les Chiclos. Il semble par moments qu'on s'en aille avec eux. Hurlant dans un cœur terrible, le tonnerre, les roquements des flots, les énormes souffles du vent, tout cela n'est plus qu'un seul bruit, immense, superbe, l'orchestre de la nature sauvage. Il y a dans les flots comme une poitrine qui râle, que c'est beau, et que c'est beau. Le vocabulaire d'une peuplade. L'espace, ses mœurs, son histoire, sa physionomie, on n'a jamais senti le besoin de chercher à conserver les traditions et les légendes des tribus, qui refoulaient de plus en plus, disparaître. Ils engagèrent une révolte qui comprenait plusieurs tribus. Parmi les déportés, la plupart étaient contre eux et constituèrent même un bataillon pour lutter contre ces canaques qu'ils considéraient comme des sauvages, des cannibales. Pour ma part, j'étais absolument pour eux. Je passais près des camarades pour être plus canaque que les canaques.
La plus brave de ces tribus, celle du grand chef Ataï, entraîna les autres. La pierre de guerre fut déterrée. Et le soulèvement commença. Du côté des Kanaks, avec des frondes, des sagaies, des casse-têtes. Du côté des Blancs, avec des obusiers de montagne, des fusils, toutes les armes d'Europe. Ataï fut frappé par un traître. Que partout les traîtres soient maudits. Selon la loi Kanak, un chef ne peut être frappé que par un chef ou par procuration. Mudo, chef vendu aux Blancs, donna sa procuration à Ségou en lui remettant les armes qui devaient frapper Ataï. Alors, à coup de hache, comme on abat un arbre, Ségou frappe Ataï. Il porte la main à sa tête à demi détachée. Et ce n'est qu'après plusieurs coups encore qu'Ataï est mort. Le cri de mort fut poussé par les Kanaks, allant comme un écho par les montagnes. Les Kanaks saluèrent de ce même cri leur ennemi parce que, disent-ils, ils aiment les braves. La tête d'Ataï fut envoyée à Paris.
11 Fructis d'or, en 81. J'espère, dans mes excursions pour la Société de Géographie, apprendre aux Kanaks à nous égaler. Ce qui ne sera pas aussi difficile qu'on le croit. Cette race qui s'éteint, au lieu d'être broyée à coups de canon et dépossédée, pourrait contracter des alliances avec la nôtre, ce qui produirait une nation intelligente et forte, du moins un peu plus que les nôtres qui sont lâches et bien bêtes. Ne sommes-nous pas heureux d'être des persécutés? Pardonnez-moi ceci, citoyens paysans, mais tant qu'on élèvera les femmes à se faire adorer bêtement comme des idoles, elles auront le sort de tous les jouets. J'espère bien que mes sauvagesses savent aussi bien que leurs frères dire la chanson de la mort, ce qui ne les empêchera pas d'acquérir des qualités aimables. Oui, j'ai lu avec plaisir et colère votre organisation sociale. Quoi ? Après les Favre et autres Jules et toute cette clique infâme, vous voulez nous mettre encore un poseur ? Et un poseur éternel passant son temps à être loué ? Votre Dieu ne serait-il pas tout simplement cet aimant invisible dont l'un des pôles attire à lui les éléments justes et vrais et l'autre des courants plus puissants que l'électricité et le magnétisme? La volonté est une pile comme celle de Galvani. Et à l'aide du peu que nous savons, en faisant table rase de toutes les superstitions religieuses et scientifiques, on arrivera à résoudre bien des problèmes. J'ai hâte de ne plus voir ce vieux monde imbécile et lâche. Amis, nous sommes vraiment heureux que cette race avilie nous renvoie. Maintenant, réponse aux questions. D'abord au citoyen Léon de Verteuil. J'avais d'abord cru que la citoyenne Blanche, dont il me parle, était Blanche Lefèvre, qui vint me voir à la barrière de la chaussée Clignancourt en me disant avec un entrain charmant « Je vous devais une visite et, n'ayant plus votre adresse, je savais vous trouver là. » Madame Lemel l'a vue depuis, à une autre barricade où il y a tout lieu de croire qu'elle est restée. Quant à notre barricade à nous, comme nous la défendions à trois depuis assez longtemps, voyant venir des gardes nationaux, je me suis écriée « Ah, du renfort !» et précipitée vers eux en disant « À la barricade !» C'étaient des Versaillais déguisés. Ils m'ont alors jeté du trottoir jusque dans la barricade, ce qui m'a fait voir que je me trompais. Mais sentant que je pouvais me lever, je suis partie. Et ils ont eu la bêtise de me manquer en tirant sur moi à bout portant. Mais le lendemain, étant allé voir maman, ces nobles vainqueurs l'avaient emmenée pour la fusiller à ma place, avait-il dit. Je suis donc partie au bastion 37, où ils l'avaient conduite, pour lui faire rendre la liberté, ou exiger d'eux un second crime. Ils ne lui avaient heureusement pas fait de mal, et ont consenti avec plaisir à l'échange. Je suis bien loin de la citoyenne Blanche, car je m'aperçois d'après votre papier que c'est un nom de famille, et me souviens même vaguement d'avoir entendu parler d'elle. Mais j'évitais toujours d'être avec les femmes dans la lutte. Je ne l'ai donc pas connue, ou de visage seulement. Au revoir, chers citoyens et amis. Nous vous serrons la main. Louise Michel. Vous me demandez comment je me porte? Parfaitement. et de plus en plus disposée à la lutte.
Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles dans l'air? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles dans l'air? Voilà 20 ans que tu sommeilles, voilà 20 ans qu'à tes oreilles l'égalité pleure et gémit. Bonhomme, bonhomme, lève-toi le jour, lui, et vive la commune dans l'air, et vive la commune dans l'air, et vive la commune dans l'air, et vive la commune dans l'air. Bonhomme, n'entends-tu pas le bourgeois railler ta misère dans l'air? Bonhomme, n'entends-tu pas le bourgeois railler ta misère long là? Il dit que ton sang dégénère, que ta race autrefois si fière s'affaisse aujourd'hui sous la peur. Bonhomme, bonhomme, qu'as-tu fait de ton cœur? Et vive la commune long l'air, et vive la commune long là, et vive la commune long l'air, et vive la commune long là. Bonhomme, n'écoute pas ces tribuns que les sots admirent long l'air. Bonhomme, n'écoute pas ces tribuns que les sots admirent long là. C'est contre toi seul qu'ils conspirent, et ce sont eux qui te trahirent en mars lorsque tu te levas. Bonhomme, bonhomme, défie-toi des Judas, et vive la commune long l'air, et vive la commune long là, et vive la commune long l'air, et vive la commune long là. Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre long l'air? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre long là? Sans être écrit chez le notaire, tous les biens humbles prolétaires sont au contrat d'égalité. Bonhomme, bonhomme, guerre à qui t'a volé, et vive la commune long l'air, et vive la commune long là, et vive la commune long l'air, et vive la commune long là.
Dans l'insurrection kanak, par une nuit de tempête, j'entendis frapper à la porte de ma case. Qui est là? Demandai-je. Taïo, répondit-on, je reconnus la voix de nos kanaks apporteurs de vivres. Taïo signifie amis. C'était eux, en effet. Ils venaient me dire adieu, avant de s'en mêler à la nage, par la tempête rejoindre les leurs, pour battre méchants blancs, disaient-ils. Alors cette écharpe rouge de la commune que j'avais conservée à travers mille difficultés, je la partageais en deux. La leur donnait en souvenir.
Direction Kanak fut noyée dans le sang, les tribus rebelles décimées. Qu'on en finisse avec la supériorité qui ne se manifeste que par la destruction. Si, au lieu de civiliser les peuples enfants à coups de fusil, on envoyait dans les tribus des maîtres d'école, respectueux de leurs coutumes, il y a longtemps que les Kanaks auraient enterré leur pierre de guerre.
Un blanc m'a dit,
tu n'es qu'un nègre, un nègre, un sale nègre. Ton cœur est une éponge qui boit avec frénésie le liquide empoisonné du vice. Et ta couleur emprisonne ton sang dans l'éternité de l'esclavage. Tu n'es qu'un nègre, un nègre, un sale nègre. Le fer rouge de la justice t'a marqué, marqué dans ta chair de luxure. Ta route a les contours tortueux de l'humiliation et ton avenir monstre damné, c'est ton présent de honte. Tu n'es qu'un nègre, un nègre, un sale nègre. Donne-moi ce dos qui ruisselle et ruisselle de la sueur fétide de tes fautes. Donne-moi tes mains calleuses et lourdes, ces mains de rachat sans espoir. Le travail n'attend pas. Tu n'es qu'un nègre, un nègre, un sale nègre. Et je tombe ma pitié devant l'horreur de ton spectacle.
Après 5 ans de séjour à la presqu'île du Kos, j'ai pu aller à Nouméa comme institutrice, où il m'était plus facile d'étudier le pays, où je pouvais voir des Kanaks, des diverses tribus. J'en avais à mes cours du dimanche toute une ruche chez moi. La curiosité de l'inconnu les tient en tant que nous, plus peut-être. Leur persévérance à comprendre une chose qui les intéresse est grande. Ils sont d'une merveilleuse adresse de main pour l'écriture, comme pour le dessin. Eh bien oui, oui, je les aime. Et ma foi, ceux qui m'accusent de leur souhaiter la conquête de leur liberté ont raison.
Il y eut un jour où les montagnes noires se fendirent comme un coco sous la pierre. Le vent souffle, la mer se répand dans la plaine, le ciel est noir. Une popinée est assise, ses fils sur ses genoux. Ils entendent l'orage, plus terrible que mille guerres. C'est le cyclone. Va-t-elle devenir Païla la brune? Sur sa tête est la grande pluie, sous ses pieds la mer qui montre, autour d'elle des gouffres sans fond. Elle se penche sur les petits afin de les préserver de l'eau. Son dos arrondi les couvre comme une caverne. Les enfants sourient, se croyant en sûreté près de leur maître. Pendant 5 levées de lune, l'eau tombe ainsi. Les fils de Païla vivent parce qu'elle les nourrit de son lait. Païla ne tremble pas. Elle est fille et sœur de guerrier. Elle est la femme d'un guerrier. Païla ne veut pas voir mourir ses fils. Il faut qu'ils deviennent des hommes. Il faut qu'ils aient combattu avant de s'endormir. Elle ne s'était pas trompée. Païla la brune. Ses fils vivent. Suspendu à son cou, il vogue sur son cadavre, comme dans une pirogue. Ils abordèrent dans une crique où s'était arrêté aussi un tronc de niaouli portant le vieux grand-père. Il aperçut les deux petits qui s'abreuvaient au sang de leur mère. Elle avait ordonné à l'aîné en mourant. C'était l'île d'Ingwell, où les filles de Tanawe avaient aussi abordé, et le vieux les maria avec les fils de Païla quand ils furent grands.
Waene, waene, taue korisele, awalo yawe, dai kani kaniru, olero e wae gogoni wawa. Waene, waene, taue korisele, awalo yawe, dai kani kaniru, olero e wae gogoni wawa.
Sous les niaouli, apprenait à lire aux petits enfants de la Kanaki.
Sous les niaouli,
sous les niaouli, sous les niaouli, tous les hommes sont égaux. en lettres jolies sur le grand tableau. Louise avait écrit pour tous mes amis là-bas qu'on tue, qu'on enchaîne. Enfants, écrivez, l'esclavage est mort, il faut qu'on l'oublie.
Ainsi se termine cette cinquième émission d'une série consacrée à Louise Michel pour à la fois évoquer sa vie et ses luttes et lui rendre hommage. Au fil de celle-ci, vous avez pu entendre des documents et illustrations musicales extraits de la cantate pour Louise Michel de Michel Bernard avec les percussions de Tréfort et l'ensemble Résonance Contemporaine sous la direction musicale d'Alain Goudard. Ainsi, l'oiseau noir du chant fauve, traditionnel, mis en musique par Michel Bernard, qui l'interprétait. Mais aussi, la complainte de Rossel, de A. Thomas, par Rosalie Dubois. Puis, la chanson Elle n'est pas morte, de Eugène Potier, mis en musique par Nicolas Parisot, interprétée là par Catherine Perrier. Ensuite, c'était Jean-Luc de Baptiste qui disait le texte de Jules Jouy, Le Mur. Puis, vous avez entendu un texte de Louise Michel mis en musique et interprété par Michel Bernard à bord de la Virginie. Autre texte de Michel Bernard qu'elle interprétait, Ton nom d'oiseau. Puis, c'était Soulenia Ouli, une interprétation de Michel Bernard d'un de ses textes sur un air traditionnel kanak. Ensuite, vous avez entendu un chant de fête de Alak A, Polyphonie des Dors, la musique éthiopienne par un chœur d'homme. Puis c'était la chanson d'Émile de Bonhomme, interprétée par Claude Reva. Et ensuite, Bernard Ascal, sur sa musique et sur des paroles de David Diop, interprétait Un blanc m'a dit. Puis enfin, c'était un autre extrait de Soulenia Ouli, donc la chanson interprétée par Michel Bernard. Les plages de diction étaient composées d'extraits de la création théâtrale de la compagnie Humbert La Vierge Rouge et de lectures de Louise Michel, extraites d'émissions de France Culture que nous remercions. Nous vous proposons de retrouver la suite de la vie et des luttes de Louise Michel lors d'une future émission. Bonsoir. Thank you.
Thank you.